8h sur France Culture. Bon réveil si vous nous rejoignez, le journal Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'état d'urgence prolongé de 3 mois, l'état d'urgence peut être en permanence. C'est la crainte des défenseurs des libertés individuelles avec le projet de loi antiterroriste présenté ce matin en Conseil des ministres, des mesures exceptionnelles qui pourraient devenir la norme. Une réforme pénale expliquée par Laure de Vulpian.
Le texte sur la réforme de la Constitution, également présenté ce matin au Conseil des ministres, inscription dans la loi fondamentale de l'état d'urgence et de la déchéance de nationalité. Comment convaincre parlementaires de gauche et de droite avant l'examen de cette réforme vendredi à l'Assemblée? Équation presque insoluble, nous dira Stéphane Robert.
Calais, sa jungle et ses migrants au cœur d'une réunion aujourd'hui au ministère de l'Intérieur face à cette crise humanitaire. Les élus locaux vont aussi demander une réponse sécuritaire.
Et toujours sur la question des migrants. Les pays balkaniques demandent plus de solidarité des pays riches de l'Union européenne.
À peine entamées et déjà au point mort, les discussions de Genève pour la paix en Syrie n'avancent pas. L'avis dans ce journal de Basma Kodmani, membre de la délégation de l'opposition. 8250 personnes radicalisées en France, des candidats au djihad ou des individus qui en sont revenus. C'est le chiffre en une du Figaro ce matin. Le quotidien dit s'appuyer sur un bilan officiel du ministère de l'Intérieur. 20% de mineurs. La radicalisation toucherait de plus en plus de filles, de converties à l'islam et des personnes qui habitent dans des zones rurales. Des chiffres dévoilés alors que le Conseil des ministres va présenter ce matin plusieurs textes pour répondre à la menace terroriste. Prolongation de l'état d'urgence de 3 mois. Révision constitutionnelle, nous en parlerons dans un instant. Et puis, un projet de loi renforçant, je cite, la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Un texte composite qui renforcera surtout les pouvoirs des préfets, des procureurs et des policiers au détriment des juges judiciaires, Laure de Vulpian.
Au départ, c'est l'ancienne garde des Sceaux qui était seule à la manœuvre, avec des dispositions assez techniques portant sur la procédure. Exemple, la limitation de la durée des enquêtes pénales, ou l'obligation pour les juges d'instruction de motiver leurs décisions en matière d'écoute téléphonique, ou encore les nouvelles modalités de demande de mise en liberté pour les détenus. Mais les attentats de novembre 2015 ont changé la donne. Au nom de la prévention des actes terroristes, les ministres de l'Intérieur et des Finances ont introduit toute une série de mesures dont l'objectif est de pérenniser et de banaliser des dispositions relevant pour l'instant du seul état d'urgence. Par exemple, une rétention de 4 heures après un contrôle d'identité pour vérifier la situation d'un suspect. Des perquisitions de nuit, jusque-là réservées aux enquêtes de flagrance, élargies aux enquêtes préliminaires. Une forme allégée d'assignation à résidence décidée par les préfets contre des personnes de retour du djihad. Ou encore, l'instauration, en lieu et place de la notion de légitime défense, d'un état de nécessité pour les policiers qui font usage de leur arme dans le cas d'un périple meurtrier. Et là, on pense au commando des terrasses le 13 novembre à Paris. Ainsi donc, des mesures exceptionnelles, considérées comme légitimes et proportionnées parce que liées à l'état d'urgence, deviendraient la règle en toute période. C'est toute l'inquiétude des défenseurs des libertés individuelles et du monde judiciaire, haute hiérarchie comprise.
8h03 sur France Culture, la suite du journal. Il n'y a pas que la réforme du code de procédure pénale qui sera présentée ce matin en Conseil des ministres. Le texte sur la réforme de la Constitution le sera également.
Et le gouvernement a dû revoir sa copie sur la déchéance de nationalité. La gauche refuse que l'on puisse faire une distinction entre Français en autorisant la déchéance pour les binationaux mais pas pour les autres. La droite réclame, elle, que l'engagement de départ soit respecté, à savoir que l'on puisse déchoir les terroristes ayant une double nationalité. L'équation paraît de plus en plus compliquée à résoudre pour le gouvernement qui a besoin des 3/5 des parlementaires pour faire adopter cette réforme constitutionnelle. Les explications de Stéphane Robert.
La semaine dernière encore, le gouvernement pensait avoir trouvé la solution. On ne fait pas de différence dans le texte de révision constitutionnelle entre les binationaux et ceux qui n'ont qu'une seule nationalité. Mais à travers la loi, on prévoit l'impossibilité de créer des apatrides, ce qui veut dire que dans les faits, on ne pourrait déchoir de leur nationalité que les seuls binationaux. Mais ça ne convient pas du tout à une très large majorité de socialistes, comme le député Sébastien Denaja.
Pas de distinction, d'une manière ou d'une autre, ni dans la Constitution, ni dans la loi ordinaire, entre les Français, quelle que soit leur origine.
Le problème, explique un autre député PS, Laurent Baumel, c'est qu'avec cette réforme, on demande aux parlementaires de gauche de renier ce qui fait leur identité, ce qui constitue leur ADN politique.
Les députés de la majorité, il se trouve que ce sont des militants qui ont des convictions et qui se sont engagés un jour en politique pour des raisons précises. Par exemple, la défense de l'égalité des droits. Or là, on a une mesure qui percute ce qu'ils croient profondément, l'égalité des droits. Et ben voilà, il arrive un moment où on ne fait pas faire ce qu'on veut à des députés de la majorité.
Alors la solution serait soit de revenir en arrière en proposant une déchéance de citoyenneté, pas de nationalité, ou bien en autorisant la déchéance pour tous. Mais ça n'est pas ce qui a été promis au départ et la droite, du coup, manquerait à l'appel. Résultat, selon le député Les Républicains Jacques Millard, François Hollande est coincé dans cette histoire.
La chose est bouclée, ou il recule et à ce moment-là on le traitera d'apostat, ou il continue sur ce qu'il a dit parce qu'il l'a dit devant le peuple et le représentant du peuple en congrès. Et à ce moment-là, il tombe à droite et sa majorité explose. Donc il est piégé dans tous les cas.
Rappelons qu'il faut une majorité de 3/5 des députés et sénateurs réunis en congrès pour faire adopter cette réforme qui sera présentée ce matin au Conseil des ministres et discutée à partir de vendredi à l'Assemblée.
Bernard-Henri Lévy, vous êtes l'invité des matins de France Culture. Quel regard portez-vous sur la réponse gouvernementale apportée aux attentats du 13 novembre ?
Déjà, il y a l'oreille que je viens de prêter à ce député-là, monsieur Millard, je crois. Vous avez entendu la jubilation politicienne obscène face à ces enjeux majeurs, la manière d'évoquer tout ça. Là, il y avait quelque chose qui je trouve, était nauséeux. Sur le fond, on a évité le pire, c'est-à-dire l'inscription dans la Constitution de quelque chose qui distinguerait entre les citoyens, entre les binationaux et ceux qui ne sont pas binationaux. C'est déjà quelque chose, mais c'est vrai que c'est pas suffisant. Le fond de l'affaire, c'est très simple. On a une solution qui a été inventée après la Seconde Guerre mondiale par les résistants triomphants, par les gaullistes, à savoir la peine de dégradation nationale pour les crimes d'indignité. Voilà. Les terroristes, qu'ils soient français de longue date ou français de fraîche date, ils sont indignes. Et comme ils sont indignes, on doit faire comme les gaullistes avec les collabos, parce que c'est la même chose, c'est des collabos d'un nouveau genre, c'est des fascistes d'une nouvelle espèce, on doit les dégrader. Et ça ne créerait pas d'apatrides, ça ne poserait pas les problèmes insolubles que l'on voit se poser aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi on ne va pas tout simplement vers cette solution qui a ses lettres de noblesse dans l'histoire de France.
Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. On vous retrouve dans la suite des matins pour votre livre « L'esprit du judaïsme » paru chez Grasset. L'évacuation ce matin d'un important camp de Rome à Paris. 400 personnes installées depuis le mois de juin sur les rails désaffectés de la Petite Ceinture dans le nord de la capitale ont été évacuées à partir de 7h15 ce matin. La fermeté des pouvoirs publics, c'est ce qu'attendent les élus de la région de Calais, épicentre de la crise migratoire en France, avec la jungle où 4000 à 7000 hommes, femmes et enfants vivent sous des tentes dans la boue, en attendant de passer en Angleterre ou d'obtenir une réponse à une demande d'asile en France. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice reçoivent aujourd'hui la maire de Calais et le président de la région Nord-Pas-de-Calais, place Beauvau à Paris. Il ne faudrait pas oublier la réponse humanitaire, précise Françoise Sivignon, présidente de Médecins du Monde, ONG très active à Calais.
Une majorité de personnes peut prétendre à l'asile politique. Hein. Donc un certain nombre y a déjà eu droit, quelque part, hein, autour de 2000 personnes. Il y en a beaucoup qui sont en attente également de ces demandes d'asile. Pas toutes. Il y en a qui ne souhaitent pas demander l'asile en France parce qu'ils sont pas au bout de leur trajet migratoire. Donc nous, on défend fortement le fait que les personnes ont le droit de s'installer là où ils souhaitent s'installer, parfois auprès de leur famille. C'est notamment le cas de nombreux, de centaines de mineurs. Et là, on est fortement en demande aussi de prendre en considération ces mineurs isolés qui sont en droit de rejoindre leur famille en Angleterre.
Et quand il s'agit de migrants économiques, alors quelle peut être la réponse ?
Écoutez, Médecins du Monde, on ne fait pas le tri entre migrants économiques et réfugiés ayant droit à l'asile. Je crois que clairement, toutes les migrations sont légitimes. C'est très compliqué de trier les personnes et c'est pour ça qu'on est vraiment tout à fait clair sur ce positionnement-là. Les gens qui migrent pour des raisons qui sont quelque part combinées, ce sont une extrême pauvreté, ce sont des conflits, donc on se refuse, nous, à faire le tri de ces personnes. Mais en grande majorité, encore une fois, ils ont, en tout cas pour ceux qui sont localisés à Calais, des demandeurs d'asile.
Françoise Sivignon, présidente de l'association Médecins du Monde, elle était l'invitée du journal de 22h de Stanislas Vazak. La crise migratoire qui touche également les Balkans, trois membres de l'Union européenne, Croatie, Roumanie Roumanie et Bulgarie et 4 extra-communautaires, Albanie, Serbie, Bosnie-Herzégovine et Macédoine, se réunissaient hier à Sofia, en Bulgarie. Ils demandent plus de solidarité entre pays européens, Bruno Caden.
Les 7 pays balkaniques ont lancé un appel au respect des valeurs européennes de solidarité aux autres États membres. Par la voix du jeune ministre hôte, le bulgare Daniel Mitov, 38 ans, les balkaniques ont réaffirmé que cette crise des migrants concernait tous les pays européens et que personne ne parviendra à la régler d'une manière unilatérale. Et Daniel Mitov de rappeler que l'Union européenne doit se penser comme une alliance et non comme un assemblage de pays individuels prenant des mesures basées sur l'intérêt national et non sur l'intérêt général européen. Cette motion rappelant les principes de base de l'Union européenne et écrite par les pays les plus récemment entrés dans l'Union, sera présentée aux 25 autres États membres en fin de semaine à Amsterdam, lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union consacrée aux migrants. Alors en attendant que les 28 mettent en application leur promesse de créer des gardes-frontières européens, la Bulgarie a proposé d'aider sa voisine macédonienne à protéger sa frontière sud avec la Grèce. Les 7 des Balkans ont cependant également estimé qu'il fallait faire une vraie distinction entre réfugiés et migrants économiques. Ces pays, en première ligne dans cette crise, proposent donc à Bruxelles d'engager un vrai dialogue sur la réadmission à l'intérieur de l'Union ou sur le rapatriement des migrants économiques avec les pays d'origine de ces migrants. Mais sur ce dossier, comme sur d'autres, les nouveaux pays membres d'Europe de l'Est ont l'impression d'être les oubliés d'une Europe que les Occidentaux veulent à deux vitesses.
Et pour la première fois depuis le début de cette crise des réfugiés et des migrants en Europe, il y a plus de femmes et d'enfants sur les routes que d'hommes. 62 200 personnes au total sont entrées en Europe par la Grèce le mois dernier.
8h11 sur France Culture, la suite du journal Catherine Dutu. La Syrie est le pays d'origine de la majorité des migrants qui gagnent l'Europe et ça n'est pas prêt de s'arrêter.
Les négociations à Genève pour la paix en Syrie, entamées lundi, sont déjà menacées. Le régime de Bachar al-Assad affirme ne pas avoir de partenaire crédible pour négocier. L'opposition syrienne, de son côté, exige des mesures immédiates en faveur des civils encerclés par les soldats du régime. Christian Chesneau a rencontré à Genève Basma Kodmani, membre de la délégation de l'opposition.
Il y a 3 demandes très claires, l'arrêt des bombardements, la levée des sièges et la libération des prisonniers. Pour l'instant, on n'a aucune perspective de règlement de ces questions. Il s'y ajoute aujourd'hui une opération militaire sans précédent sur Alep qui semble viser à encercler Alep. Donc on ajouterait un nouveau siège plutôt que de lever le siège sur d'autres villes qui sont déjà assiégées depuis des années. On espérait une surprise positive sur l'aspect humanitaire. Nous avons la surprise d'une énorme opération qui semble avoir été préparée plusieurs mois à l'avance et qui est programmée pour se dérouler précisément à la date où ces négociations auraient dû avoir lieu.
Et sur le terrain militaire, l'armée régulière avance en direction d'Alep, la deuxième ville de Syrie, grâce à l'appui massif de l'aviation russe. Le virus Zika n'en finit pas de s'étendre sur le continent américain. Au Brésil, plus de 4000 cas confirmés de microcéphalie à la naissance, des bébés nés avec une tête trop petite, synonyme de retard mental irréversible. C'est 300 cas de plus recensés en une semaine. Et puis aux États-Unis, les autorités sanitaires ont confirmé un cas de transmission du virus Zika par voie sexuelle. Jusqu'à présent, on pensait que seuls les moustiques étaient vecteurs de la maladie.
Et les États-Unis et l'Union européenne ont trouvé un accord politique pour encadrer le transfert de données personnelles.
Accord censé assurer plus de protection aux internautes européens. Les explications d'Abdella Kaledrissi.
Ce bouclier de confidentialité prévoit que les 4500 entreprises, dont Google, Apple ou encore Facebook, qui collectent et transfèrent des données personnelles vers les États-Unis, s'engagent à préciser l'utilisation qu'elles font de ces données. Et le ministère américain du Commerce s'assurera que ces engagements sont publiés par chaque entreprise. En réponse aux inquiétudes sur les pratiques de surveillance de la NSA, l'administration américaine s'est également engagée, par écrit, à encadrer strictement l'intrusion des forces de l'ordre et des agences de renseignement dans les données collectées par les entreprises américaines, contrairement aux pratiques de surveillance de masse. Une vérification annuelle est prévue et les organismes européens de protection des données personnelles y seront associés. Enfin, l'accord est censé garantir aux internautes européens un droit d'accès à leurs données s'ils estiment qu'elles ne sont pas suffisamment protégées. Les entreprises saisies auront l'obligation de répondre. Les CNIL européennes pourront adresser des demandes directement au ministère américain du Commerce et un médiateur sera nommé pour faire le lien avec les agences de renseignement sur leurs pratiques. Les entreprises américaines concernées ont salué cet accord politique et demandent qu'il soit rapidement traduit en un document juridique. Des associations d'internautes dénoncent de leur côté un accord insuffisant qui ne protège pas assez les citoyens européens. Après la signature d'un éventuel accord juridique, il n'est pas impossible que la justice européenne soit de nouveau saisie pour se prononcer sur la légalité du document.
Abdellah El Drissi pour France Culture. Des pneus brûlés devant la préfecture de Pau, des affrontements entre éleveurs et forces de l'ordre à Saint-Lô dans la Manche. La mobilisation des agriculteurs n'a pas faibli hier, encouragée par Xavier Belin. Le président de la FNSEA, puissant syndicat agricole, a affirmé hier à la sortie d'une réunion à l'Élysée qu'il ne demanderait pas aux agriculteurs en colère de lever leur barrage. Pas de sortie de crise en vue donc. Deux députés bretons, Annick Leloc et Thierry Benoît, ont été chargés d'une mission d'information parlementaire à ce sujet. Conclusion attendue le 2 mars prochain par tout le secteur de l'élevage qui souhaite trouver les moyens de résister aux prochaines crises. Pour Thierry Benoît, député UDI d'Ille-et-Vilaine, il faut effectuer un vrai travail sur la construction des prix dans la filière.
Quand on produit du lait, quand on produit du porc, quand on produit de la viande bovine, le coût de production, la construction du prix n'est pas la même en 2016 qu'en 1950. Lorsqu'on demande à nos éleveurs de faire de la sécurité sanitaire, alimentaire, lorsqu'on leur demande de faire de l'environnement, du paysage, ceci a un coût qui doit rentrer dans la construction du prix. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de mystères qui entourent les négociations, ce qu'on appelle les négociations commercial. Alors on a l'Observatoire des marges et des prix, on a le médiateur des relations commerciales, mais je pense malgré tout qu'il faut que l'autorité de la concurrence puisse intervenir parce que quand même, lorsqu'il n'y a plus que 4 ou 5 centrales d'achat qui négocient les prix avec les industriels, ben, c'est pas sans nous interpeller du point de vue du droit à la concurrence. Parce que bon sang de la vie, c'est un métier formidable que d'être éleveur. En France, il y a 1,5 million de malnutris en France. Donc on voit bien qu'il y a un débat autour de l'alimentation. C'est un vrai sujet. Donc c'est un beau métier, mais c'est un métier qui doit rétribuer justement son homme. Moi je suis gêné, voire choqué, d'observer que nos éleveurs n'arrivent pas à vivre de leur métier, alors que dans le même temps, certains acteurs de la chaîne vivent bien. Alors moi je suis content que la grande distribution se porte plutôt bien, ravi que les industriels réussissent, parce que derrière, il y a de l'emploi, mais je serais plus fier et d'un point de vue éthique plus heureux si la richesse était plus équitablement répartie.
Thierry Benoît, député UDI d'Ille-et-Vilaine, interrogé par Anne Lorchouin. Un mot du temps de ce mercredi 3 février. Très instable et les températures sont en baisse. Cet après-midi, il fera 7 à Paris, 10 à Lyon, 11 à Nantes et Mont-de-Marsan, jusqu'à 17 degrés à Bastia, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu. Prochain rendez-vous d'information sur France Culture à 9h.